Consonance. De la page à la voix. Porte-plume. Lecture libre. Consonance. La balade de Nominoé, une épopée de poche de Jean-Albert Mazo.
Écoutez, écoutez vous qui marchez dans la lande, écoutez vous qui longez le rue de la bataille, sous le murmure de l'onde et des pierres qu'elle caresse, écoutez les paroles, à peine retenues, les cris aigus, le chant perdu des temps anciens, vous les entendez? Écoutez. Entendez des temps lointains ces voix qui portent des noms presque oubliés. Et parmi ces noms oubliés, un nom revient et ce nom est Nominoé. Écoutez, suivez le fil de ma voix. Je vais vous raconter l'histoire de Nominoé, l'histoire des Bretons qui l'ont sacré roi, l'histoire de la bataille de Ballon, de la victoire des Bretons contre les Francs. Une bataille qui s'est déroulée il y a plus de 1000 ans. Écoutez, écoutez-moi et imaginez, c'est l'aube. Le jour peine à se lever en ce matin de novembre. Le ciel est bas, le ciel est plat, le ciel est gris, il fait froid. La brume colle, humide, aux derniers boutons d'or des ajoncs, aux pointes ambrées de la bruyère. Imaginez une immense prairie, et à l'est la Vilaine, fleuve impétueux au gué dangereux, et à l'ouest la rivière de l'Oust, et barrant l'horizon au nord, le rue qui ne porte pas encore le nom de la bataille. Imaginez les alentours vallonnés, les landes sauvages et les terres froides, les bois enchevêtrés d'épines et de broussailles, et dans l'un de ces bois sont tapis les Bretons de Nominoé. Ils épient les Francs. Les Francs entrent dans l'immense prairie. Les Francs avancent sur leurs fiers destriers, puissants chevaux de combat. Ils défilent en rang serré, au point, l'angon pointé vers l'avant et à leur taille, l'épée large, courte et carrée, au tranchant acéré. Ils s'arrêtent dans l'immense prairie, sûrs de la victoire contre les Bretons. Apercevant le fer de Nominoé planté au milieu de l'immense prairie, les Francs s'arrêtent. Aussitôt, les archers saxons se placent devant la cavalerie. Les Saxons bandent leur arc, tendent leur première flèche, prêts à décimer l'armée bretonne. Dans la forêt profonde, au milieu de ses cavaliers, Nominoé doute. Il connaît les Francs. L'efficacité de leur stratégie militaire, leurs chevaliers aguerris appuyés par ces Saxons à la terrible réputation. Nominoé doute, comme il avait douté lors de l'assemblée des braves, tous silencieux. Là, il avait rompu le silence, demandé « De combien de chevaliers marchant sur nous dispose l'armée franque ?» Un conseiller avait répondu « Selon nos espions, Doux, 2000, peut-être 3000. Et les nôtres ? » Personne n'avait osé répondre. Alors, Nominoé doute. Comment en est-on arrivé là ? Se demande-t-il. Comment ? Pour le savoir, et savoir le pourquoi, vous qui m'écoutez, il est besoin de revenir en arrière, bien loin dans le temps. Le temps d'avant Charles le Chauve, le roi qui mène les Francs au combat contre les Bretons en ce matin de novembre 845. Avant son père Louis le Pieux, avant son grand-père Charlemagne, avant même Pépin le Bref, fondateur de la dynastie carolingienne, bien avant, au temps de Clovis. En ce temps-là, l'Empire romain d'Occident se disloque. Des peuples conquièrent les territoires autrefois conquis par Rome, Jutes, Angles et Saxons, Pictes et Scots, Goths, Ostrogoths et Visigoths, Alains et Alamans, Suèves et Vandales, Burgondes et Lombards, et parmi tous ces peuples, la nation franque, qui occupe bientôt l'ancienne Gaule, tourne ses yeux vers l'Armorique. L'Armorique, à l'extrême occident, là où l'océan cogne et bloque toute avancée humaine par la terreur qu'il provoque. L'Armorique est peuplée d'autochtones et de plus en plus, depuis des siècles, de plus en plus d'hommes, de femmes qui viennent de la Bretagne insulaire et se mêlent aux Armoricains, aux Armoricaines, tant et si bien qu'au VIe siècle, l'Armorique devient la Bretagne. La Bretagne continentale. Terre d'un immense brassage de population faisant un nouveau peuple, les Bretons, durs au mal, obtus, des insurgés résistants au choc des armées germaniques. La Bretagne, Clovis et ses descendants mérovingiens la considèrent comme relevant de leur suzeraineté, et c'est la guerre. Pourtant, malgré les invasions, les raids, les batailles, jamais les Francs n'imposent leur autorité aux Bretons. Mais voici que le maire du palais, Pépin le Bref, renverse le dernier roi mérovingien, Childéric, se fait sacré roi à sa place, fonde une nouvelle dynastie et l'étau se resserre sur la Bretagne. Car les Carolingiens veulent définitivement dominer la Bretagne. Et pour cela, ce n'est plus la guerre, ce sont les guerres. 6 guerres en 70 ans. Une menée par Pépin le Bref, 2 par l'empereur Charlemagne, 3 par son fils Louis le Pieux. 6 guerres gagnées par les Francs, 6 guerres vaines. Sitôt ces armées retirées, le pouvoir franc ne parvient pas plus à s'imposer. Les Bretons refusent toujours le joug carolingien, ce qui attise la haine des Francs. Haine portée par Hermolle le Noir, poète stipendié par l'empereur pour chanter ses louanges dans les faits et gestes de Louis le Pieux. Ainsi parle-t-il des Bretons, horde vomie par les flots ennemis, sans foi ni loi, aux habitudes incestueuses, aux mœurs animales, ayant repoussé toute idée de juste et d'injuste, autant de stéréotypes véhiculés sur le barbare depuis l'Antiquité. Et pourtant, Louis décide d'appeler au poste de préfet de Bretagne, non un franc, comme ses ancêtres ont toujours fait, mais un breton. Et ce breton, c'est Nominoé, jeune comte de Vannes pourvu d'indéniables qualités d'administrateur. Ainsi, en 832, l'empereur nomme Nominoé gubernans in Britanniam, gouverneur de la Bretagne. Les conseillers francs enragent. Donner cette charge à un vaincu, un barbare, incapable de tenir ces impies bretons en perpétuelle rébellion. Louis confirme pourtant sa décision. En 834, Nominoé devient missus imperatoris in Britanniam, envoyé de l'empereur en Bretagne. Pourquoi l'empereur Louis choisit-il Nominoé ? Par calcul politique et par intérêt fiscal. Il espère que Nominoé saura mater les impétueux Bretons qui ne cessent de se quereller, d'agresser les Francs. Et c'est ainsi qu'agit Nominoé. Il instaure une police, attaque, harcèle, livre la guerre quand il faut, calme, compose, négocie quand il peut, quitte à se faire traiter de valet de l'occupant impérial. L'empereur attend aussi les entrées régulières du tribut imposé par le vainqueur ou vaincu. Et c'est ainsi qu'agit Nominoé, collectant la taxe année après année avec opiniâtreté, quitte à se faire traiter d'agent à la solde de l'imposant franc. Seulement, Nominoé voit plus loin. Il vise l'émergence d'une identité bretonne autour d'un doux, d'un pentierne, d'un chef occupant la prime place sur Tierne et MacTierne, roitelet et chef de clan breton. Et c'est ainsi qu'agit Nominoé, quitte à susciter l'incompréhension du camp franc comme du camp breton. car malgré les vicissitudes entre puissants, Nominoé reste fidèle à Louis le Pieux. Et soudain, l'empereur meurt, laissant derrière lui trois fils. L'aîné est Lothaire. Il a la détermination de son grand-père, Charlemagne, sa force, son caractère entier. Il veut ne rien céder aux deux autres au nom du droit d'aînesse. Louis est le cadet. Il a la tempérance de son père dont il porte le nom. Il connaît la tradition franque qui consiste à partager les biens et les pouvoirs de façon équitable. Il ne recule pas devant Lothaire. Le Benjamin s'appelle Charles, fils d'un deuxième mariage de Louis le Pieux, ce que lui reprochent ses demi-frères. De sa jeune mère, il a la fougue et la finesse. Il ne se laissera pas abuser par les autres. Ainsi, les fils de Louis le Pieux se disputent l'héritage de leur père. « Je suis l'aîné, l'Empire est à moi !» réclame Lothaire. « Ce n'est pas la coutume franque !» conteste Louis. « À chacun sa part !» tranche Charles. C'est bientôt la guerre entre eux. Louis et Charles s'allient contre Lothaire et en 842 se prêtent serment de mutuel secours à Strasbourg. Charles dans la langue de Louis, le tudesque à l'origine de l'allemand, et Louis dans celle de Charles, le parler roman qui deviendra le français. La guerre fratricide mène au massacre. Le massacre conduit au désastre et le désastre à l'impasse pour tous. La trêve remplace la division. La paix succède à la guerre. L'Empire est divisé en trois lors du partage de Verdun en 843. À Lothaire, la meilleure part, celle d'Aix-la-Chapelle, capitale de son grand-père Charlemagne, et de Rome, siège pontifical. À Louis, la partie orientale du défunt empire, d'où lui vient le surnom de « germanique ». À Charles, enfin, la Francie occidentale où se trouve la Bretagne. Et Charles, dit le chauve depuis qu'il s'est rasé la tête par pénitence, entend récupérer sa saisine, le tribut que ne lui versent plus les Bretons, l'allégeance que ne lui a jamais prêté Nominoé. Car les Bretons s'émancipent de jour en jour du joug carolingien. Nominoé multiplie les incursions en territoire franc. Son fils Erispoé, défait par le comte de Nantes à Messac, massacre toute une colonne franque à Blain. Alors, le tout jeune roi Charles veut la guerre. Lorsque les Normands remontent la Seine, assiègent Paris. La campagne contre les Bretons est retardée. Il faut négocier l'or franc contre le départ normand. Les hommes du Nord lèvent le siège et Charles revient à son idée. Marcher sur la Bretagne, écraser son peuple, éliminer son chef. Mener une guerre en novembre? Les conseillers du roi hésitent, c'est inhabituel. Sire, une campagne dure de mai à octobre, vous le savez. Mais le roi tranche. L'audace de ce peuple rebelle n'a que trop duré. Préparez-vous à combattre. Ainsi l'armée franque se rend à l'aube du 22 novembre 845 dans une immense prairie au nord de Roton, non loin de Bain, près du monastère de Ballon qui donnera son nom à la bataille entre Francs et Bretons. Ainsi, les chevaliers francs, armés de langons à trois branches et du fer carré et tranchant, précédés d'archers saxons aux flèches mortelles, entrent dans la vaste prairie où est fichée l'épée de Nominoé. Et Nominoé doute. Il doute comme il avait douté à l'Assemblée des Braves, lorsqu'il avait insisté pour connaître les forces bretonnes face à l'armée franque. Son fils Erispoé avait fini par avouer quelques cavaleries légères. Des hommes certes courageux, mais chevauchant des bidets bretons qui font pâle figure face aux destriers carolingiens et pourvus d'une seule javeline bien moins meurtrière que langon franc. De ses faiblesses, pourquoi ne pas en faire une force? Nominoé se souvient de cette question, de tous les yeux se tournant vers celle qui avait parlé, Argantael, l'épouse de Nominoé qui, selon la coutume millénaire des Celtes qui perdure chez les Bretons, siège et donne son avis comme d'autres femmes à la cour de Nominoé. Une force ? S'emporte Katouaret, conseiller proche de Nominoé. Dame, avez-vous oublié l'efficacité de la stratégie militaire des Francs, leur cavalerie en rang serré pour un combat frontal ? Comment lutter contre cette technique qui leur garantit la victoire depuis des siècles ? Je ne l'ai pas oublié, Katouaret. Mais vous ? Questionne calmement Argantael. Avez-vous oublié comment, depuis des siècles, les nôtres combattent ? Ne vous rappelez-vous pas la façon dont Warok a autrefois vaincu les Francs non loin d'ici ? Pensez-vous qu'il n'y ait que la stratégie franque qui garantisse la victoire ? Autour d'Argantael, toutes et tous se souviennent de l'antique façon de batailler des Bretons, reprise par Warok, roi du Broérec, défiant le Franc en surgissant, harcelant, épuisant l'adversaire. D'autant, ajoute Nominoé, reprenant espoir grâce à Argantael, d'autant que nous possédons d'autres atouts. Et lesquels, s'étonne Katouaret ? Nos bois, nos landes, nos marais, nos vallons, dont nous savons chaque bosquet, chaque buisson, chaque méandre, chaque embûche. Servons-nous du terrain que nous connaissons, du climat qui nous est favorable. C'est pourquoi nous laisserons les Francs franchir la Vilaine. Franchir la Vilaine ? Cette fois, c'est Erispoé qui laisse éclater sa colère. « Êtes-vous fou, père ? On n'a jamais permis cela !» Erispoé, ton âge explique ta fougue. Une fougue qui faillit nous coûter cher à Messac il y a 2 ans, souviens-toi. Aussi, écoute-moi. Nous allons attirer nos ennemis au confluent marécageux de l'Oust et de l'Af, près de Ballon, non loin de la hutte. De là, partout dans les bois, nous disposerons de charrettes emplies de javelines. Et c'est toi, Erispoé, qui te chargera de faire exécuter ce plan, tout comme de trouver des piétons postés dans les marais, prêts à agir. Quant à vous, Argantael, merci de nous avoir éclairés. Votre précieux avis nous mènera à la victoire. Ainsi, l'armée franque franchit la Vilaine. Ainsi, l'armée franque pénètre l'immense prairie où l'épée de Nominoé est fichée dans la terre bretonne comme un défi à la couronne, au pouvoir, à l'autorité du roi franc. Ainsi, Charles le Chauve de sa main gantée fait un signe. À ce signe, un homme met à sa bouche un corclair, et le corclair sonne si fort que de partout, des murs du monastère de Ballon aux campagnes les plus lointaines, on peut l'entendre. L'instant d'après, le son du cor s'éteint dans la brume, où se mêlent l'haleine des chevaux et le souffle de leurs cavaliers. L'instant d'après, le cri des corbeaux dans la plaine fait vibrer leur cœur, comme le froid humide de novembre fait vibrer la corde des arcs saxons. L'instant d'après, c'est le silence. Et c'est l'attente. L'attente des Bretons. Dans le froid humide de novembre, dans le silence et dans l'attente des Bretons, soudain, une clameur immense perce la brume, et brusquement, les Bretons surgissent, les cavaliers de Nominoé surgissent des bois, des landes, des marais, et leurs javelines sifflent de droite, de gauche, de toutes parts, s'abattent sur les archers saxons qui, sensibles, fixes, paniqués, se réfugient derrière les chevaliers francs, rangs serrés, massés, claustrés, comprimés, immobilisés dans leur stratégie, et eux aussi chancellent, se disloquent, s'écroulent. Certains chevaliers parviennent pourtant à se détacher, prêts à charger les cavaliers bretons qui, tout à coup, au lieu de lutter, fuient le combat. Est-ce la manière bretonne de faire la guerre ? Tout, aux yeux des stratèges francs, semble si désordonné, si lâche. Que faire, se demandent les hauts dignitaires francs ? Avancer dans une formation carrée ? Cette technique, venue des armées romaines menées par César, est un désastre. Les Francs constituent des proies faciles pour les cavaliers mobiles que sont les Bretons, éparpillés dans les bois tout autour. Là, des dizaines de charrettes sont remplies de javelines, telles que l'avait imaginé Nominoé, ordonné Erispoé. Là, des hommes tendent une arme à chaque cavalier qui repart aussitôt au combat, oui. Les Bretons n'ont fui qu'un instant. Ils reviennent sur le champ, bondissent, jettent leurs javelines, disparaissent, tandis que d'ailleurs d'autres jaillissent, harcèlent l'armée des Francs, recommencent leur assaut. La bataille devient vite d'une violence inouïe, laissant désemparer tout le camp de Charles le Chauve. Que faire, se demandent encore les stratèges francs. Poursuivre les cavaliers bretons par petites unités? C'est pire. Dans les bois touffus, des chevaliers francs, empêchés, entravés par leur immense engon qui se heurte aux troncs, aux branches, aux broussailles, aux ronces, sont bientôt égorgés par des bretons glissant des arbres. Dans les marais brumeux, d'autres chevaliers francs, attirés par les cavaliers bretons filant sur leurs légers bidets, sont bientôt noyés dans les eaux glacées, où leurs lourds destriers s'embourbent, s'enfoncent. En cette journée humide de novembre 845, se succèdent harcèlement breton, charge franque aussi vaine que désespérée, guet-apens dans les bois, mort assurée dans les marais. La bataille de Ballon est une victoire pour Nominoé. Et c'est de la bataille de Ballon que certains datent la naissance d'une Bretagne unifiée et indépendante derrière un souverain unique, Nominoé. Nominoé, premier roi des Bretons ? Jamais il ne porta ce titre, et qu'importe, puisque les Bretons ont fait de Nominoé leur roi après sa victoire à Ballon. Une victoire, oui, et avec elle ces folles rumeurs. Dans les marais, dans les bois, dans les cours de fermes isolées, et au village, à l'abbaye de Ballon, même à Saint-Sauveur de Redon et dans toute la Bretagne, court une rumeur. Charles le Chauve s'est enfui dans la nuit sans le trésor royal! Une autre rumeur se répand aussi vite qu'un feu lors d'une canicule. « Le roi franc est mort ! Charles le Chauve est mort !» Ce ne sont que des rumeurs. Le roi Charles réapparaît dans le Maine, le trésor royal auprès de lui. Une autre rumeur se fait plus persistante et on l'entend encore de nos jours. On prétend que l'eau du rue de la bataille, qui coule en contrebas du monastère de Ballon, serait rouge du sang de ceux tombés au combat. Des rumeurs courent encore de nos jours, tout aussi folles que les haines recuites. Si grise est ma chevelure comme ciel de novembre, claire est ma voix à l'ombre des arbres de Ballon. Je ne suis pas venu à vous pour chanter la guerre. Seulement, tel le murmure étouffé du marais, faire entendre les voix depuis longtemps éteintes et nous souvenir. Nous souvenir que la guerre tue, remplie de sang fleuves et rues, brûle maisons et récoltes, apporte deuil et désolation. Je suis venu à vous pour chanter l'histoire, ranimer la mémoire et dire, au-delà du souvenir, qu'au combat préférons le débat, qu'au meurtre, au cri, préférons la poésie. Fêtons les faits anciens, offrons-les à qui veut vivre dans la paix, au pied de la statue de Nominoé, comme en flânant à travers le mémorial à son nom. C'est en son nom que je veux achever cette épopée, que j'emporte dans ma poche comme un livre, et chanter la ballade de Nominoé. Je suis du vent, la force son frisson. Je suis la main, le souffle du bardi. Des anciens temps, un chant pour aujourd'hui, en souvenir du haut pays breton. Je suis l'aube qui coule sur le front. Je suis le rêve à l'aurore décharnée, commencement des couchants déchaînés et jour neuf du haut pays breton. Je suis la brume déchirée par la jonc, je suis la pluie qui coule des sommets, le vent qui gifle à la fleur jaune du genêt, la lande surgit du haut pays breton. Je suis le rue qui coule de Ballon, je suis la rage du fleuve à la frontière, le pied qui cogne au roc de la rivière jusqu'au marais du haut pays breton. Je suis le fer et le bois et l'affront. Je suis la hache ainsi que la cognée qui heurte et claque les corps ensanglantés dans les forêts du haut pays breton. Je suis aussi du corps des cris le son. Je suis encore les hommes et les femmes tombés au choc du filet de la lame jusqu'aux confins du haut pays breton. Je suis aussi clameur à l'unisson. Je suis encore la mémoire et l'espoir et des paroles, toutes les histoires, toutes les langues du haut pays breton. Je suis le oui qui sait le prix du non. Je suis le feu, le souffle du bardi. Je suis son vers et son chant car je suis Nominoé du haut pays breton. Je suis Nominoé. Oui, tel est mon nom. Je suis Nominoé.